Charlie & Co.
Charlie and Co. Charlie & Co.
Bonjour à tous. Comme chaque semaine sur Fadjet, Charlie & Co vous emmène en balade dans les rues de Nancy à la rencontre de ceux qui les animent. Et cette semaine, rencontre avec Syria Charity Team Nancy et les projets de futurs architectes au conseil départemental. Comme d'habitude, on démarre notre périple du 47 rue Charles III, des studios de Fadjet. Vous n'avez plus qu'à nous suivre, c'est parti. Et direction la rue Raymond Poincaré, on remonte la rue Charles III, on récupère la place Charles III, puis la place Thiers, on traverse le pont au-dessus de la voie ferrée et nous voici dans un des QG de Syria Charity Team Nancy, le Pidélis. C'est ouvert, alors on entre.
Tariq, donc président de l'association Syria Charity Team Nancy, donc qui est une antenne de l'association mère qui existe donc depuis 2011. Donc ils sont basés à Paris, qui agissent donc principalement dans les villes assiégées en Syrie. Et leur but donc non lucratif va être de venir en aide à la population syrienne, des aides humanitaires, des colis alimentaires, du parrainage pour enfants, dans l'urgence, du matériel médical et des projets de développement dans la durabilité.
Donc Syria Charity, c'est une association nationale, mais un peu partout en France, des antennes locales se créent, et notamment à Nancy. Donc là, ça fait quelques mois seulement qu'elle a été créée ici à Nancy.
Alors nous, on existe depuis novembre. Effectivement, Syria Charity compte 11 antennes dans toute la France, et on est la 12e. Je ne sais pas si c'est prétentieux, mais en 2 mois d'existence, c'est vrai qu'on a fait pas mal parler de nous. Nancy se mobilise d'une manière très active et on est vraiment ravis de tout ce qui nous arrive en ce moment.
Beaucoup d'actions, aussi bien pour sensibiliser, mais aussi récolter des dons, récolter du matériel, parce qu'il faut du concret aussi pour pouvoir les aider.
Alors tout à fait. Sensibilisation, je pense que l'association mère le fait d'une manière propre à eux-mêmes. Nous, on a plutôt choisi une sensibilisation dans le sens où on sait ce qui se passe plus ou moins en Syrie. Nous, ça va être plutôt l'action. On va plutôt se concentrer sur un message positif. Et donc, on sait qu'on a une population aujourd'hui qui vit des choses horribles. On sait aussi qu'ils ont encore beaucoup d'espoir et nous, on veut être la voix de cet espoir. En fait, on veut vraiment apporter un peu plus de soutien à ces gens qui ont effectivement cet espoir dans leurs yeux. On le voit dans des vidéos, des enfants qui sont innocents et qui ne savent pas ce qui leur arrive. Donc nous, c'est leur dire, voilà, on est ici, on va pouvoir vous apporter autre chose que ce qui vous arrive, c'est-à-dire des bombes, du gaz, toutes les atrocités du monde qui ne doivent pas être le quotidien d'un enfant.
Aujourd'hui, à Alep et dans d'autres villes de Syrie, il n'y a plus vraiment de quotidien. Les enfants ne sont plus scolarisés, il ne se passe plus rien, il n'y a plus de vie quotidienne. Donc tout ça, ça va être à reconstruire et c'est aussi les objectifs de l'association, aider à reconstruire cette vie-là ensuite.
Alors tout à fait, nous, on est parti sur une somme, une collecte de 50 000 euros. Bien qu'il y ait un caractère urgent qui va se résumer à envoyer du matériel médical et du lait bébé, notre objectif principal, c'est de créer une école et donc plutôt reconstruire. C'est, au lieu d'apporter le poisson, on voudrait qu'un jour ces enfants apprennent plutôt à pêcher d'eux-mêmes, quoi. Donc c'est le but de Syria Charity Team Nancy. En tout cas, le projet principal, c'est créer une école qu'on appellerait El Stan, qui ferait référence à Stanislas et l'article El Stan. Donc El, ce serait l'article arabe pour dire le, tout simplement.
C'est l'objectif que vous voulez atteindre pour le mois de juin ?
Alors tout à fait, le mois de juin, pourquoi ? Symboliquement, encore une fois, c'est la fin de l'année scolaire ici en France, le 30 juin. Autour du 30 juin, c'est la fin de l'année scolaire. Et nous, ce qu'on veut, c'est peut-être redémarrer justement une scolarité pour ces enfants. Bon, je ne dis pas que le 30 juin, l'école sera construite. Mais en tout cas, jusqu'à ce moment-là, il faut qu'on se donne corps et âme pour récolter de l'argent par différentes manifestations pour la construction donc, de cette école à ce moment-là.
Alors ça va dépendre aussi de l'évolution de la situation. Il faudra peut-être attendre le moment où ce sera un peu stabilisé pour pouvoir aussi reconstruire ces bâtiments, reconstruire une école.
Effectivement, beaucoup de personnes nous disent quelle est l'utilité d'avoir une école qui va peut-être être détruite à nouveau. Bon, c'est vrai qu'on ne va pas construire une école pour qu'elle soit détruite. Beaucoup de travail sont faits à ce niveau-là, au niveau de Syria Charity Maire, mais également de notre côté. On creuse pour avoir le bon terrain, le bon lieu, la bonne implantation. Maintenant, ça ne doit pas être un frein à l'action. Effectivement, nous, on travaille de ce côté. Faut vraiment différencier les deux, nous faire confiance, puisque notre but, ce n'est pas que cette école soit détruite, bien sûr.
De toute façon, une fois que les dons sont récoltés, l'argent est là, même s'il est utilisé que quelques mois plus tard ou un an plus tard, la construction, elle peut être repoussée.
C'est vrai que les gens aiment avoir une concrétisation rapide de leurs dons. Il faut être patient, effectivement. C'est une école qui va durer peut-être... Pour moi, ça a l'équivalence d'un musée, quoi. Plus tard, pour moi, c'est comme si on avait construit un musée. Donc, il faut prendre le temps, il faut être patient là-dessus. C'est un projet dans la durabilité, donc... Soyez patients et faites-nous confiance parce qu'on travaille aussi sur ce côté qui est très très important, bien sûr.
Alors on le disait, beaucoup d'actions, de sensibilisation, beaucoup d'activités aussi pour récolter des dons. Donc c'est aussi toucher un peu tous les publics.
Alors effectivement, on essaie de vraiment toucher tous les publics. On a eu des emballages cadeaux, comme des cours de yoga solidaire. On a eu des massages contre du lait bébé. On a eu des ventes de macarons qui se sont faites. On a un tournoi de foot qui se prépare, donc des manifestations culturelles et sportives. Et aujourd'hui, on est friands de porteurs de projets qui nous apporteraient des idées. Et bien sûr, nous, on est là pour organiser d'un point de vue logistique, communication. On est là pour apporter un soutien supplémentaire aux porteurs de projets pour la réalisation de son événement.
Là, on le disait, une association très active. Combien de bénévoles, là, actuellement ?
Alors, on est plus de 70 bénévoles. On est bien soudés. On a une bonne dynamique. Chaque fois qu'il y a des sollicitations, elles sont très vite remplies. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Maintenant, on arrive à un moment où on aimerait encore passer à la troisième vitesse. Pour moi, il y a 5, 6, 7, 8, 9, 10 vitesses. On n'en est qu'à la troisième. Donc pourquoi pas passer la quatrième avec vous qui nous écoutez aujourd'hui. Nous dire, tiens, moi j'ai une idée, je sais chanter. Tiens, moi je peins. Ou alors, moi, mon entreprise, on a un CE qui s'occupe un petit peu. Voilà, les idées sont très, très diverses. Et si vous voulez faire des dons aussi, la cagnotte en ligne est toujours là, bien sûr, parce que vu qu'aujourd'hui, pour faire cette école, on a besoin d'argent, l'argent devient l'élément le plus important de nos actions aujourd'hui, quoi, de nos attentes aujourd'hui.
Puis tous les dons, même les plus petits, on le disait, on peut contribuer en fonction de ses moyens, donc même 1 euro, 2 euros. Si 10, 50, 100, 1000 personnes font ce petit geste, et ben au final, c'est un beau geste.
Effectivement, il n'y a pas de petit geste quand on est des millions à le faire. Et même si on ne peut pas aider tout le monde, je pense que tout le monde peut aider quelqu'un. Tout simplement, on a une page Facebook où on est près de 1300. À 2 euros, ça fait 2600. C'est des calculs qui sont effectivement très simplistes, mais si on multiplie par jusqu'au 30 juin, ça fait déjà presque 10 000 euros. C'est 10% de notre cagnotte, du but final. Donc il ne faut pas se dire 1 euro, c'est rien du tout. C'est de l'argent et on veut 1 euro. D'ailleurs, on avait lancé une campagne 2 euros pour Alep. Et je sais qu'on avait eu pas mal de retours là-dessus. Donc si on peut relancer et relancer, il ne faut pas hésiter.
Alors justement, vous en êtes où de cette cagnotte à ce jour ?
Alors cette cagnotte, on est à 30%. On est à 30% du chiffre final. Donc on n'est pas loin. Et avec les différents partenariats qu'on a eus récemment, notamment du conseil départemental, le président Mathieu Klein s'est engagé donc déjà verbalement avec nous pour nous apporter un soutien. Et donc sur une opération précise, on devrait avoir une collecte que le département va doubler. Donc si on arrive à collecter sur cette collecte 10 000 euros, le département s'engage à doubler la mise, donc on nous ferait un don de 10 000 euros, donc ça nous ferait 20 000 euros. Et ça, ce serait le rêve. Voilà.
Alors justement, pour atteindre cet objectif, il y a encore de nombreux événements à venir. On le disait, des événements culturels, sportifs. Là, il y a une bourse aux vêtements, des concerts aussi à venir.
Alors la bourse aux vêtements qui est dédiée aux enfants. Elle se déroule le 29 janvier de 11h à 18h, donc c'est à Vendeuvre, salle Pagode. N'hésitez pas à venir faire un petit tour, ce sera très convivial. Il y a une kermesse avec des ventes de gâteaux, des animations pour les enfants et bien sûr la vente de vêtements. On a pas mal de vêtements, ils ont été lavés, ils ont été triés. Ça a été un travail vraiment de fourmi. On a 6-7 bénévoles qui font des machines depuis presque la création de Cyria Charity Team Nancy. Donc lavage, triage, c'est des objets qui sont encore tout neufs. Donc n'hésitez pas, ils seront vraiment à bas prix, quelque chose comme ça part de 20 centimes jusqu'à 1 ou 2 euros, quoi. Des vêtements de marque, des choses qui n'ont pas été portées encore. Et je pense que pour les enfants, ça va tellement vite, on grandit tellement vite que faut pas hésiter à passer faire un petit tour, quoi. Il y a plein de belles petites choses. Moi, j'adore les enfants et je vois que tout ce qu'on nous a donné, c'est vraiment magnifique. Donc n'hésitez pas à passer vous refaire une petite garde-robe. Ce sera convivial, il y aura un petit peu de musique. On sera entre nous pour une belle cause. Faut pas hésiter.
Et des concerts à venir aussi.
On a également des concerts à venir. On va avoir le 9 février à 18h30 à la MJC Pichon. Donc il y a Dusty Frucks, David Vincent, qui est notre tête d'affiche, et Los Calcanos qui seront présents. L'événement s'appelle Du son pour Alep. On peut réserver en ligne, donc sur le site de la MJC Pichon. N'hésitez pas à partager l'information également. Le 9 mars également, on va avoir un autre concert. Les artistes sont encore dans l'ombre, on ne dit pas qui c'est, il y aura des belles surprises. Des tournois de foot qui seront aussi faits courant mars. Au mois de mai, on a un tournoi de foot à l'échelle internationale qui devrait se faire. Donc c'est un monsieur qui est de Nancy, un manager, qui nous a promis de nous donner donc les bénéfices de cet événement. Et ça va être des équipes de foot professionnelles, donc d'Europe, de Turquie, donc El Galatasaray, Fenerbahçe, Borussia Dortmund, plusieurs équipes d'Italie aussi. Et c'est les U9, donc pareil, c'est assez sympathique. On a récemment aussi Ikea qui nous apporte aussi un soutien, non pas monétaire, mais on va nous apporter des meubles, des lits. Et je ne vous dis pas les chiffres parce qu'on ne sait pas encore, mais c'est par centaines. Donc pareil, c'est une très bonne nouvelle pour nous aujourd'hui. On a également le gala caritatif final qui devrait se passer le 7 juin, donc au grand salon de l'hôtel de ville, place Stanislas, à la mairie. Pareil, on sera, je pense, une belle équipe avec des exposants, des artistes, des concerts, une petite sensibilisation parce qu'on va certainement avoir une connexion directe avec les ambulanciers de Cyria Charity, la présence du bureau de Paris et bien sûr tous les acteurs qui nous ont soutenus aujourd'hui, donc la ville de Nancy, le conseil départemental, les vitrines de Nancy et bien sûr tous les colibris.
Les colibris sont les bénévoles ?
Les colibris, oui. On s'est appelé les colibris parce que la vice-présidente Aline trouvait que chacun devait faire sa part et vous connaissez donc l'histoire de Pierre Rabhi qui nous explique que il n'y a pas de petits gestes finalement, que chacun fait sa part avec son petit bec, on apporte chacun notre petite chose et c'est plutôt une belle chose parce qu'on est vraiment entouré de belles personnes qui donnent de leur temps, qui donnent de leur passion et quand on allie tout ça, et ben on n'a que des ondes positives qui se propagent, donc c'est positif.
Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie infiniment de votre sourire et votre bonne humeur.
On vous rappelle toutes les infos pratiques en fin d'émission. Charline Co continue sur Fadjet et dans un instant, on découvre le travail de futurs architectes, mais ce sera dans quelques minutes, après un peu de musique. A tout de suite.
I'm gonna rock your back, take it down slow. Gonna rock your back, don't you didn't know. I'm gonna rock your back, take it down slow. Gonna rock your back, don't you know. We'll be right back.
De retour sur Fadjet, et après avoir récupéré la rue Jeanne d'Arc, puis la rue Gabriel Mouilleron, nous voici rue du Sergent Blandan, à l'hôtel du département de Meurthe-et-Moselle, où des étudiants de l'école d'architecture de Nancy exposent. C'est ouvert, alors on entre.
Sébastien Rinquet, architecte, enseignant à l'école d'architecture de Nancy.
Rémi Rouillère, architecte, également enseignant à l'école d'architecture de Nancy.
Et vous êtes en train d'installer ici, dans le hall d'accueil du conseil départemental, une exposition. Enfin, c'est plus qu'une exposition, c'est un grand projet avec les étudiants de l'école d'architecture notamment.
Oui, alors déjà peut-être le titre un peu de ce projet général, c'est Frondaisons urbaines, donc au pluriel, Frondaisons urbaines, qui est une histoire donc, qui a commencé il y a maintenant 3 ans. À Lunéville, par un partenariat entre l'école d'architecture de Nancy et le conseil départemental au travers d'une expérimentation-action sur le domaine du château de Lunéville, du château des Lumières.
Alors pourquoi le château des Lumières ? Parce que historiquement, Stanislas, au XVIIIe siècle, avec son architecte Emmanuel Héré, avait une très belle idée de mettre en place des kiosques dans le jardin, pouvant permettre à un certain nombre de personnes de profiter du jardin, d'événements, de rencontres autour de ces kiosques qu'on appelait au XVIIIe siècle des folies.
Ou des fabriques. Il y a plusieurs termes pour désigner ces mini architectures qui vont entrer en fait en symbiose avec le milieu naturel dans lequel elles s'installent.
Elles ont existé, elles ont disparu au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, il est question de remettre un pavillon semi-éphémère dans le parc du château. Pourquoi ? Parce que dans ce château, ou du moins dans ce parc du château, beaucoup de personnes le traversent, le côtoient au quotidien, mais ne peuvent pas s'y arrêter. Donc l'idée, c'est de pouvoir faire un lieu convivial autour d'une cafétéria, d'un mini-lieu d'exposition dans le parc du château. Voilà, donc les étudiants, il y a 2 ans, ont commencé à travailler sur un prototype. Ce prototype est un prototype à l'échelle 1, construit par l'école d'architecture de Nancy, se situant actuellement dans la halle à grains à Lunéville. Pour vous donner une idée, ce prototype, cette architecture à l'échelle réelle, c'est à peu près 15 mètres par 10, constitué d'ossatures standardisées de serre, recouvertes par un système de polycarbonate, de tôle, et de récupérateurs d'eau permettant de végétaliser la partie supérieure. Pourquoi ? Parce que nous sommes plutôt favorables à une architecture qui s'inscrit dans un paysage ou dans une nature, quitte à faire disparaître cet édifice. Et donc faire en sorte que la toiture se végétalise par un système de culture de plantes et de filtration.
Et du coup deviennent un élément du paysage comme des systèmes de plantation naturelles qui aussi fabriqueraient donc le paysage du domaine du château.
Alors, ils se fondent un petit peu dans le paysage.
Oui, tout à fait. Oui. Alors le mur qui est en train de se monter, là, une grande paroi, enfin une grande photographie à très, très, de très grande dimension, va permettre de présenter au public ce qui est actuellement donc, dans la halle à grains au château de Lunéville. On ne pouvait pas la transporter, bien évidemment, ici. Et donc, l'idée, ça a été de la reproduire à échelle grandeur pour que les visiteurs de l'exposition au conseil départemental puissent se rendre compte de l'ampleur et même de la qualité de l'espace, puisqu'on a une vue en fait, qui montre l'espace qui est sous cette voûte plantée que décrivait Sébastien et qui va donc montrer le type d'ambiance qu'on pourrait trouver si on avait la chance effectivement de pouvoir réaliser ce pavillon d'ici quelques temps en réalité dans le parc du château.
du cas pratique pour les étudiants.
Oui, tout à fait. Oui. Alors c'est à la fois pratique parce que le fait qu'ils soient intégrés non seulement à la conception, donc la pédagogie va de la conception, qui passe par tout un travail d'ailleurs de modélisation réelle et virtuelle, hein, donc modélisation réelle, c'est-à-dire fabrication de maquettes à échelle réduite, dont un certain nombre là sont montrés dans l'exposition, et qui vont ensuite effectivement passer à une échelle grandeur. Un des projets a été sélectionné et a été donc réalisé comme une forme de prototype réel avec une économie constructive, avec un budget, avec toutes les contraintes du réel, mais transposé effectivement dans ce lieu un peu expérimental à la grain du château de Lunéville.
Alors, toute petite précision, c'est pas un projet, c'est en fait un mélange de plusieurs projets d'étudiants pour la construction finale.
Vous avez pris les meilleures idées de chaque projet.
Exactement.
C'est une espèce de pot-pourri, en fait. dans le beau sens du terme, hein, prend comme ça des samples. C'est une technique de musique, hein, qui est très utilisée en musique électronique. On assemble des morceaux, ce qu'on appelle des samples, pour fabriquer un morceau. Et donc c'est un peu ça qui a été fait en fait ici avec ce prototype.
Alors, les objectifs à long terme, c'est former les nouvelles générations aussi à toutes ces techniques pour ramener la nature en ville.
Ah oui, bien sûr. On pourrait aussi inscrire ça, établir un parallèle avec tous les mouvements aujourd'hui sur l'agriculture urbaine. Hein, on est tout à fait dans cette veine. Et donc, c'est aussi peut-être pour essayer peut-être de voir comment un projet architectural et un projet urbain pourraient aussi s'inscrire dans une réflexion sur les circuits courts et sur la production locale. Et il nous semblait effectivement que dans cette approche, avec ces nouveaux moyens de production, on pourrait du coup toucher à cette question donc, de la façon dont les projets d'architecture et d'urbanisme en ville, en centre-ville, pourraient aussi contribuer donc, à cette réflexion sur le rapport avec la production locale.
Donc on le disait, c'est un projet qui ne cesse d'évoluer. Oui. Ici, donc, on retrouve un peu toutes les étapes du projet sous forme de maquette, le travail des étudiants. À terme, qu'est-ce qui va se passer avec tout ce travail ?
Alors à terme, déjà, donc, y a, par rapport à l'organisation de l'exposition, donc, les trois temps, je dirais, sont représentés. Hein, c'est-à-dire le démarrage avec le pavillon prototype, hein, tel que Sébastien l'a décrit tout à l'heure. Ensuite, la perception, en fait, la réflexion plus globale à l'échelle de la ville. Et puis là, la troisième étape, en fait, qui est en cours de montage par les étudiants. Donc la quinzaine d'étudiants, en fait, que vous voyez ici, elle représente la troisième génération, si on peut dire, d'étudiants qui a participé donc à cette réflexion collective qui a été engagée donc par notre groupe qui s'appelle Artecné, hein, Sébastien Rinkel, Arnaud Rifkin qui n'est pas présent ici et moi-même, et qui ont été un peu à l'initiative en fait du déclenchement de cette réflexion. Et donc la troisième étape qui est en cours de fabrication par les étudiants, elle se resserre en fait sur un îlot du centre-ville de Lunéville, qui s'appelle l'îlot Bastien, hein, en référence à une ancienne librairie qui se situait sur ce pâté de maison, dont une partie en fait est en ruine, puisque c'est une partie qui a été incendiée, qui n'a jamais été réparée ou reconstruite, et le futur reste aujourd'hui très incertain. Et donc ça a été pour nous l'occasion de se lancer en fait dans une réflexion qui pourrait aboutir, hein, ça c'est un peu pour répondre à votre question, qui pourrait aboutir à un chantier démonstrateur, encore une fois pour cette prise avec le réel, hein, un chantier démonstrateur dans cet îlot qui permettrait donc d'insérer des nouveaux dispositifs architecturaux qui réenclencheraient en fait une nouvelle vie dans ce pâté de maison qui est un peu en attente aujourd'hui de quelque chose.
Alors on le disait, les étudiants sont en pleine installation de leurs travaux, leurs maquettes.
Moi c'est Perrine, je suis étudiante en cinquième année et pour ce projet-là, on a été un peu libre sur l'îlot Bastien. En fait, on pouvait un peu gérer notre programme comme on voulait. Donc moi je suis partie du constat qu'aujourd'hui les jeunes couples, les jeunes familles vont plutôt habiter en périphérie des villes, dans des maisons pavillonnaires standards, classiques. Et donc, mon intention, c'était de proposer une autre façon de vivre, en fait, en repensant cette façon d'habiter avec les mêmes nombres de mètres carrés en termes de jardins, de plantations ou même de terrasses, et de proposer ça donc, au cœur de Lunéville, avec un jardin en pleine terre, des cultures donc, différentes qui sont là hors sol, puisqu'on est limité en termes d'espace au sol. Des terrasses et donc venir ajouter comme ça par une nouvelle architecture des espaces en plus qui viennent requalifier en fait l'existant et qui viennent en fait enrichir les habitations qui existaient déjà et qui permettent d'attirer des jeunes familles ou des jeunes couples qui voudraient s'installer au cœur de Lunéville avec les mêmes avantages en fait qu'on aurait en périphérie.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous.
L'objectif aussi de cette exposition, c'est qu'elle soit itinérante. Donc si des communes, des structures nous écoutent sur le département, elles peuvent vous solliciter pour venir donc exposer toutes ces maquettes et pouvoir sensibiliser, discuter peut-être d'un nouveau projet.
Tout à fait. Ah oui, non, c'est vraiment le. Ça s'inscrit aussi dans une dynamique qui avait été un peu lancée par l'école d'architecture et par Lorenzo Diez, le directeur de l'école, sur l'idée que l'architecture, à l'échelle même de la grande région, il a appelé ça région architecture, ça pourrait devenir être un instrument politique de médiation et de diffusion en fait de ce que l'architecture et l'urbanisme peuvent apporter à l'amélioration du cadre de vie en fait.
Et en l'occurrence là, les étudiants qui sont aujourd'hui au conseil départemental sont là depuis lundi, restent jusqu'à vendredi et produisent sur place. Donc c'est-à-dire que les choses se mettent aussi en œuvre au fur et à mesure. Donc ça aussi pour une commune qui souhaiterait être dans cette démarche-là, c'est aussi une force de proposition d'un groupe de travail qui peut s'inscrire sur un territoire, dans une commune, le temps d'un projet.
Il peut y avoir une pré-exposition, c'est-à-dire où du public peut venir pendant le montage pour comprendre comment ça fonctionne et pouvoir discuter avec les étudiants.
On pourrait organiser des réunions publiques et donc pour faire un peu réagir les habitants sur ce qu'ils voient, sur les idées que ça leur donne et sur ce que ça leur donnerait envie de faire eux-mêmes pour transformer en fait le cadre de leur vie quotidienne. Quoi. Donc.
Merci beaucoup.
Mais merci à vous.
Avant de se quitter, on vous rappelle les infos concernant nos invités. Syria Charity Team Nancy, c'est une jeune association, 12e antenne locale de la structure nationale. Une association qui œuvre ici, en local, pour lever des fonds et aider les populations qui vivent l'horreur en Syrie, et notamment les enfants. Syria Charity Team Nancy a un grand projet, récolter 50 000 euros d'ici le 30 juin prochain, une somme qui permettra de construire une école du côté d'Alep, mais aussi dès aujourd'hui d'envoyer du matériel médical ou encore du lait bébé. De nombreux événements caritatifs sont organisés pour atteindre cet objectif. Et d'ailleurs, prochainement, une bourse aux vêtements pour enfants, dimanche 29 janvier, salle Pagode à Vendeuvre, mais aussi des concerts, le 9 février par exemple à la MJC Pichon ou encore début mars. Et puis entre autres, des tournois de foot, des rencontres et un grand gala le 7 juin à l'Hôtel de Ville de Nancy. Vous pouvez vous aussi les aider en apportant vos idées ou en leur offrant du temps. Contact via leur page Facebook Syria Charity Team Nancy ou encore en faisant un don sur le site officiel syriacharity.org. Frondaisons urbaines, c'est un grand projet mené par des étudiants de l'école d'architecture de Nancy qui tend à repenser la place de la nature dans notre urbanisme. Un projet sur 3 ans réfléchi sur une base existante sur le territoire de Lunéville. Un projet à découvrir actuellement à l'hôtel du département de Meurthe-et-Moselle près de Nancy Thermale dans une exposition qui se tient jusqu'au 30 janvier prochain. Cette expo a aussi pour ambition d'être itinérante sur la région afin de réfléchir ensemble au cadre de vie de demain dans nos villes. Plus d'infos, contactez l'école d'architecture de Nancy ou rendez-vous au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle jusqu'au 30 janvier. Voilà Charlie & Co, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient la semaine prochaine pour de nouvelles aventures dans les rues de Nancy. Si vous aussi, vous voulez nous inviter à découvrir votre association ou votre projet sur Nancy, rendez-vous sur la page Charlie & Co sur le www.fadjet.net. Vous pouvez aussi nous envoyer un message par mail à charlie.ie@fadjet.net, nous contacter au 03 83 37 56 09 ou nous retrouver sur les réseaux sociaux. Enfin, si vous avez raté une partie de l'émission, ou tout simplement une folle envie de la réécouter, diffusion le vendredi à 18h30, rediffusion le dimanche à 12h30 et le mardi à 17h30, et bien sûr les podcasts disponibles sur le site de la radio avec toutes les coordonnées de nos invités. Je vous souhaite une très bonne fin de journée à l'écoute de Fadjet, bien sûr. À la semaine prochaine, ciao.